Les surrénales sont des glandes à sécrétion interne placées dans la partie supérieure de la cavité abdominale, au-dessus du rein. L'anatomie, l'histologie, l'embryologie et l'anatomie comparée nous ont montré au cours de notre dernière causerie que ces organes étaient formés de deux glandes différentes, la médullo et la corticosurrénale. La physiologie va nous révéler la même dualité. Étudions d'abord la médullo-surrénale. En 1894, Oliver et Schaffer constataient que l'injection intraveineuse d'une très faible dose d'un extrait surrénal provoquait une forte élévation de la pression artérielle. Le français Vulpian avait remarqué dès 1856 que le chlorure de fer colorait la médullo-surrénale en vert. En se servant de ces deux propriétés comme test, les chimistes purent extraire un produit de plus en plus actif. En 1901, Takamine et Aldrich isolaient le principe actif cristallisé, l'adrénaline. En 1904, Stoltz et en 1905, Dakin en réalisèrent la synthèse. Qu'est-ce que l'adrénaline? C'est un alcool secondaire. Sa formule brute est C9H13O2N. Un des carbones qui la constitue est dit asymétrique, c'est-à-dire que ses quatre valences sont toutes saturées par des éléments différents. La configuration dans l'espace de ces molécules asymétriques est telle qu'elles acquièrent des propriétés optiques très particulières. C'est ainsi qu'une lumière polarisée se trouve déviée à la sortie d'un corps asymétrique. On peut mesurer en degrés l'angle de déviation de la lumière polarisée. La déviation se fait à droite ou à gauche. Le corps asymétrique est dit dextrogyre ou lévogyre. L'adrénaline naturelle, extraite de la médullo-surrénale, dévie à gauche la lumière polarisée. Elle est lévogyre. L'adrénaline de synthèse est un mélange de dextrogyre et de lévogyre. Le produit naturel lévogyre est 15 fois plus actif que l'adrénaline dextrogyre. Nous sommes en présence d'un phénomène important, celui de l'activité physiologique liée à la disposition dans l'espace des atomes d'une molécule. Voici deux corps, l'adrénaline gauche et l'adrénaline droite. Ils ont exactement la même formule, mais la disposition des atomes dans la molécule n'est pas superposable dans les deux cas. Or, la droite est plus petite que la gauche. Les rapports entre structure et fonction constituent un des problèmes les plus passionnants de la science. L'adrénaline agit à des doses extrêmement faibles. Un millième de milligramme en injection intraveineuse provoque une élévation de la pression artérielle chez un chien de taille moyenne. Les lapins succombent à une injection intraveineuse de 1 à 2 dixièmes de milligramme par kilo de poids. La médullo-surrénale libérerait de l'adrénaline dans le sang de manière continue à de très faibles concentrations. Ce taux s'élève lorsque l'organisme doit fournir un effort inusuel. Le physiologiste américain Kenyon a remarqué que toutes les actions de l'adrénaline convergeaient vers un même but, qui est le maintien d'une constance de composition, d'un équilibre de l'organisme contre les agressions du monde extérieur. La douleur, l'asphyxie, l'anesthésie, l'exposition au froid, les produits de déchets provenant de l'activité musculaire, etc., provoquent la sécrétion d'adrénaline. Celle-ci déclenche un ensemble de réactions ordonnées selon Kenyon pour la défense ou la fuite, l'attaque ou la poursuite. La pression sanguine augmente par contraction des vaisseaux de la peau et des viscères abdominaux. En même temps, les artères qui irriguent le cœur, le cerveau et les muscles en travail se dilatent. La force de la contraction et le débit cardiaque sont accrus. Le sucre mis en réserve dans le foie sous forme de glycogène est mis en circulation et ainsi à la disposition des muscles. La rate se contracte et déverse dans le torrent circulatoire sa réserve de globules rouges, augmentant ainsi la quantité d'oxygène que le sang peut fixer. Les bronchioles se dilatent, la respiration s'accélère, le temps de coagulation du sang est raccourci. L'adrénaline reproduit les effets de l'excitation du système nerveux sympathique. On dit qu'elle est un sympathomimétique parfait. C'est au point qu'un physiologiste l'appela du sympathique liquide. Ce rapprochement avec le système sympathique n'est nullement artificiel. Rappelons d'abord que l'origine embryologique de la médulo-surrénale est la même que celle des ganglions sympathiques. Les cellules de la médulo-surrénale sont considérées comme des cellules ganglionnaires sympathiques orientées au cours de leur développement vers une fonction endocrinienne. Rappelons enfin la théorie de la médiation chimique de l'influx nerveux. Les fibres nerveuses sympathiques sont dites adrénergiques parce qu'elles libèrent à leur terminaison, au point de contact avec l'organe qu'elles innervent, une substance semblable à l'adrénaline. C'est par l'intermédiaire de l'adrénaline que le message nerveux du sympathique est transmis à l'organe effecteur. Cette découverte très importante valut à Loewy son auteur, le prix Nobel. Elle permettait de faire le lien entre deux systèmes de relations entre les organes. Système nerveux sympathique d'une part, système hormonal d'autre part, puisqu'une hormone, l'adrénaline, s'avérait l'intermédiaire obligé de l'action nerveuse sympathique. Il serait facile d'opposer la complexité de la cortico-surrénale à la relative simplicité de la médulo-surrénale. Celle-ci ne fabrique qu'une seule hormone, l'adrénaline. On a extrait de la cortico-surrénale 28 substances actives identifiées chimiquement. Et la liste n'en est pas close, puisque le résidu d'extraction de ces 28 hormones est encore doué de la plus forte activité. La médulo-surrénale est sous contrôle nerveux. L'excitation du nerf splanchnique qui l'innerve provoque une sécrétion immédiate d'adrénaline. La réaction de cette glande est rapide, mais en 4 à 5 minutes, l'adrénaline libérée est inactivée dans l'organisme. La cortico-surrénale est une glande aux réactions lentes. Sa sécrétion est mise en jeu par une hormone de l'hypophyse, dite hormone corticotrope. Les produits isolés de la cortico-surrénale, par les grands chimistes Kendall et Reichstein, sont des substances du type du cholestérol. On les appelle stéroïdes. On peut les classer en trois groupes. Premièrement, les hormones androgènes. Elles ont les mêmes propriétés que l'hormone mâle. Elles accroissent la crête du chaperon et déterminent l'hypertrophie de la prostate. Lorsqu'elles sont sécrétées en trop grande quantité chez la femme, à la suite d'une tumeur surrénale, la malade perd sa féminité, présente des signes de virilisme, développement de la pilosité, moustache, barbe, rossité de la voix, humeur batailleuse, développement de la force musculaire. L'augmentation de l'élimination de ces hormones surrénales par les urines permet de rattacher ces signes à leur cause. Le traitement consiste dans l'ablation chirurgicale de la surrénale en hyperfonctionnement. Le deuxième groupe des hormones corticosurrénales comprend la désoxycorticostérone ou hormone de l'eau et du sel. Elle règle les échanges de chlore, de sodium et de potassium. Enlevez les surrénales à un rat et vous verrez le chlore et le sodium des humeurs de l'organisme s'éliminer par le rein. En même temps, la concentration en potassium de ces humeurs s'élève. Injectez de la désoxycorticostérone. La fuite du sodium et du chlore est stoppée et l'équilibre ionique est rétabli. L'action de l'hormone sur la rétention du sodium a servi tout récemment à doser cette hormone. Les biologistes ont utilisé du sodium radioactif. Grâce à cette méthode extrêmement sensible, on peut doser des quantités de désoxycorticostérone inférieures au millième de milligramme. Le troisième groupe d'hormones surrénales agit sur les sucres. Il transforme les albumines en sucre et dépose le glycogène dans le foie. Ces deux derniers groupes d'hormones interviennent dans la défense de l'organisme. C'est le mérite du savant canadien Cellier d'avoir montré que l'organisme répond d'une manière univoque aux agressions les plus diverses. Exposition au froid, à l'excès de chaleur, choc traumatique ou opératoire, infection, intoxication, émotions de chaque jour, etc. Dans tous ces cas, une chaîne de réactions se déclenche. L'hypophyse sécrète une hormone. Celle-ci stimule la corticosurrénale qui déverse ses propres hormones dans le sang. Ces hormones concourent à la défense de l'organisme, à l'adaptation de celui-ci à une situation nouvelle. Ainsi se développe ce que Cellier a appelé syndrome de l'adaptation. Mais il arrive que la réaction de défense dépasse son but et que s'installent de véritables maladies de l'adaptation. En injectant de fortes doses continues de désoxycorticostérone seul à des animaux, on peut faire apparaître les signes du rhumatisme articulaire aigu et ceux de l'hypertension avec lésion rénale, se terminant par une hémorragie cérébrale. Ajoutons que de telles lésions peuvent être évitées si on associe à la désoxycorticostérone d'autres hormones surrénales. C'est dans cette voie que se poursuit l'effort des chercheurs. L'enjeu est d'importance si l'on songe que l'hypertension artérielle et les complications du rhumatisme articulaire aigu font chaque année un nombre immense de victimes. Les chimistes poursuivent activement leurs travaux d'isolement et de détermination de formules des nouveaux stéroïdes surrénaux et de synthèse des produits identifiés. La désoxycorticostérone peut aujourd'hui être fabriquée par synthèse. On l'utilise largement dans la maladie d'Addison. Le chemin parcouru depuis 100 ans est impressionnant. Dans la deuxième moitié du siècle dernier, Trousseau, dans une admirable leçon clinique sur la maladie d'Addison, qui est une insuffisance surrénale grave, déclarait « Je savais que sur 15 malades dont l'histoire avait été rapportée par Addison, 15 étaient morts. Devant un aussi formidable résultat, j'avais, il faut en convenir, de fortes présomptions de penser que nous ne serions pas plus heureux dans le cas qui s'offrait à notre observation. L'événement ne devait que trop nous donner raison et la terminaison fatale arriva même plus tôt que je ne l'avais supposé. Et Rousseau ajoutait, je n'ai pas besoin de vous faire remarquer quel service Addison a rendu à la science et à l'art. Lorsqu'il y a 40 ans, dit Rousseau, je commençais mes études médicales. La question était un inextricable chaos. Jusque-là, en présence de ces graves affections, nous étions réduits à un déplorable empirisme, ne sachant pas distinguer les unes des autres celles dans lesquelles nous étions à même d'intervenir utilement, celles contre lesquelles tous nos efforts devaient rester impuissants. Si, dans le premier cas, un heureux hasard nous venait en aide, dans le second, nous courions le risque, en appliquant des médications intempestives, d'introduire dans un état grave des complications sérieuses, conclut Rousseau. S'il était donné à l'illustre clinicien de revenir parmi les vivants, il serait émerveillé de voir combien, aujourd'hui, l'évolution des affections de la surrénale est transformée grâce au progrès de la science au service des hommes.